Radio Grand Ciel présente Be Jazz, soyez jazz, une émission réalisée grâce à la participation technique de Claude Casal, au micro Christiane Blain. Accompagné pour ces émissions de Patrick Durand, un médecin qui explique le cheminement de pensée par la neurobiologie. Patrick Durand, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Gilles Secaz, un journaliste qui pratique la guitare dans des formations de jazz. Bonjour Gilles Secaz.
Bonjour Christiane Blain.
Au cours de cette émission, nous allons évoquer pour vous Mickey One, une œuvre du cinéaste américain Arthur Penn. C'est son troisième film que la critique éreinta à sa sortie en 1965. En voici le scénario. Un acteur comique de Detroit voit sans vraiment comprendre comment sa vie bascule le jour où il devient l'objet de pression de la part d'une mystérieuse association criminelle. Se sentant poursuivi, harcelé, persécuté, il fuit, puis trouve à Chicago l'opportunité de remonter sur scène. Mais la menace sourde et abstraite pèse encore sur lui.
Le film Mickey One s'ouvre sur un générique qui résume en images et en musique la vie d'un humoriste de boîte de nuit à succès, Warren Beatty, Don Juan et jouisseur. Nous écoutons la première bande sonore, Once Upon a Time, et vous allez tout de suite reconnaître les participants de cet orchestre. Reconnu Stan Getz avec sa sonorité suave, languissante et namourée. Mais revenons au déroulement de ce film.
Oui, alors cette première scène dont la bande sonore s'intitule Once Upon a Time, il était une fois, nous permet de rencontrer un petit peu le personnage principal, c'est-à-dire Mickey One. Donc Mickey One apprend par son employeur, Rudy Lopp, qui est joué par le vieux comédien américain Frank Shotton, qui n'est plus en odeur de sainteté auprès de sa clientèle. Et ses prestations sur scène ne font plus rien. Il doit payer et rembourser à une mafia une dette dont il ne connaît ni l'origine ni le montant. Et persuadé d'être poursuivi, il s'enfuit à travers les États-Unis. Devenu vagabond, il vole l'identité d'un homme au nom imprononçable, une espèce de Polonais, et se fait engager dans un restaurant pour vider les poubelles. C'est alors qu'on lui attribue le nom de Mickey One.
Et voici donc le thème de Mickey.
Il prend pied dans sa nouvelle vie, fréquente les bars et les boîtes de nuit et trouve un agent artistique, George Berson, qui est interprété par Delia Hart et qu'il fait engager de nouveau comme animateur. Castle, qui est interprété par Herb Hartfield, le patron du club Le Xanadu, où il se produit, le prie, puis le presse et finalement lui intime l'ordre de reprendre son ancien métier. Mickey Wan s'enfuit, puis rentre chez lui et fait la connaissance de Jenny, qui est interprétée par Alexandra Stewart, une voisine de son immeuble.
A girl named Jenny.
En amoureux, tous deux assistent à un happening donné par un étrange personnage, The Artist, qui est interprété par Kamatari Fujiwara, une sorte de mime qu'ils croisent en permanence à chaque fois que Mickey Wan s'enfuit, ils croisent ce fameux artiste. D'une sculpture animée à la Jean Tinguely et baptisée Yes. La présentation s'achève par l'incendie de l'œuvre et l'intervention des pompiers qui noient la sculpture sous la mousse. Il reprend son travail et fait rire les clients. Les propositions affluent. On se l'arrache, mais il doit d'abord régler sa dette auprès de la mafia. Comment la contacter? Où la trouver? À qui s'adresser? Un serveur lui parle d'une salle de jeu qui s'appelle l'Endroit. Mais où trouver cette salle? Il se met en quête de retrouver Rudy Lop, mais Castle lui apprend qu'il est mort. Il se fait poursuivre par les videurs d'un cabaret, le Kismet, et se fait rouer de coups. Finalement, bien que sa paranoïa persiste, il revient à son spectacle, le visage couvert de pansements, et décide, face au spectateur, de ne plus fuir et d'affronter ses démons.
Nouvelle illustration sonore. La précédente, vous avez vu, le rythme un petit peu endiablé, un petit peu déchaîné, était censé illustrer les videurs qui tape sur
Mickey One.
Oui, voilà, qui tape sur Mickey.
De ce morceau interprété par Stan Getz et l'orchestre d'Eddie Sauter est « Is there any world? So this is the world ». Ce qui signifie « Y a-t-il un mot quelconque? Or voici le mot ». En fait, c'est Mickey One qui prononce cette phrase à la fin en regardant le projecteur qui projette évidemment sa lumière sur lui. Lorsqu'il est face au spectateur, en fait, il a compris que s'il y avait un mot pour désigner ce qui lui arrivait, c'est que le mot, c'était lumière. Lumière, et le film se termine comme ceci.
Alors, on peut dire qu'à sa sortie, la mise en scène d'Arthur Penn a été jugée, disons, trop européenne par les critiques, et le film plutôt boudé par le public. Il est vrai que Mickey One nous plonge au cœur d'un authentique délire paranoïaque. Le film est une tentative de représentation de la folie qui ne se préoccupe ni du sens, ni de la chronologie, ni même de la logique. Dès l'ouverture, en quelques minutes, l'intrigue est expédiée et à partir de cet instant, le film commence véritablement et la narration suit son cours erratique. Improbable au gré des rencontres, des projections et des hallucinations, sans que ne soit jamais fait référence à la réalité. Impossible de dissocier ce qui vient finalement de l'extérieur, les perceptions, de ce qui vient de l'intérieur, je dirais les hallucinations.
Ce passage s'intitule de Tsukuba, Attendu, son, c'est les succubes. Donc, succubes. Les succubes, bon, tout le monde sait. Les succubes, les incubes, il s'agit de démons. Donc, le démon, c'est cette paranoïa qui est contenue dans Mickey et qui lui provoque ses hallucinations. Bon. Il s'agit donc d'une illustration par Goetz de ce monde de succubes. Alors, nous allons dire un mot de façon générale de ce film, Christiane. Il y a vraiment des morceaux de bravoure qui sont joués par Stan Goetz.
Oui, les improvisations mélodiques transcendent la dérive paranoïaque et hallucinatoire de Mickey. La musique, omniprésente, renforce le sentiment de panique et de persécution qui peut habiter le personnage de Mickey, convaincu d'être traqué à mort par une menace obscure et je dirais impalpable.
En 1961, Stan Goetz rencontre l'arrangeur Eddie Sauter. Et ensemble, ils vont signer Focus, un album mythique, une splendeur passée à la postérité comme un des chefs-d'œuvre du ténor, une des plus belles réussites d'un genre ô combien exigeant, le jazz avec cordes, dont on entend même un extrait dans Buffalo 66, le premier film de Vincent Gallo. Ce qu'on sait moins, c'est que 4 ans plus tard, en 1965, ils vont remettre le couvert à la pressante invitation d'Arthur Penn, qui, convaincu du génie fécond de ce duo d'occasion, demande à Stan Goetz et à Eddie Sauter de prendre en main la musique de Mickey One.
Morning Ecstasy, toujours Stan Goetz.
En réalité, la partition de Mickey One est à peu près du même niveau stratosphérique que Focus, mais sans doute un peu plus fou encore. Le duo nous conduit dans un univers baroque, foisonnant, enivrant, où se mêlent de manière souvent imprévisible des effluves de la Nouvelle-Orléans, des valses étranges, des fragments de rock, des bouts de fanfare, des airs échevelés, des dissonances éclatantes, des sirènes à la Varèse, des ballades à tomber par terre, des cuivres en super forme, des cascades de cordes comme des rivières de diamants.
Le tout est orchestré dans un grand désordre, bien sûr organisé, savamment organisé, mais qu'on peut rattacher à l'image des troubles mentaux du héros du film. Il s'agit quand même d'un thème qui est assez récurrent chez les Américains, ces désordres psychologiques. On pense à Hitchcock tout de suite, les grands films d'Hitchcock. Mais un thème qui est couramment repris avec cette double habitation du personnage par des pulsions. Bon, là, on a vu, il s'agissait de diables, mais il peut s'agir tout simplement de parano qui sont des troubles mentaux assez banaux, mais que les Américains considèrent toujours comme quelque chose d'assez malin, d'assez prenant et il faut faire quelque chose. Donc, illustration par les cinéastes de façon récurrente de ce problème, des folies passagères ou non.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était pour la première fois qu'on utilisait le jazz pour illustrer cette folie. Tu citais Hitchcock. Hitchcock faisait appel au compositeur Miklos Rosa, lui, qui est un compositeur plutôt classique, pour illustrer ces folies, ces paranoïas. Là, c'est assez unique, c'est assez original, puisque il faudra attendre les improvisations assez éclatantes de Stan Goetz et l'orchestration plutôt originale d'Eddie Sauter
Oui, c'est cet ensemble d'ailleurs qui fait la caractéristique, parce que Getz, on le connaît quand même comme un saxophoniste assez lyrique, assez voluptueux. Donc le prendre pour illustrer une paranoïa était quand même un petit peu difficile.
C'était difficile.
Et c'est l'ensemble, c'est l'orchestration, c'est ce rajout, disons, de cette musique de Getz assez douce sur un ensemble de corps derrière parfois discordants, oui. Qui permet d'avoir cette atmosphère un petit peu particulière et qui est adaptée malgré le lyrisme de Getz.
Le lyrisme et le don extraordinaire, le talent extraordinaire de Getz pour l'improvisation, en tout cas ici.
Ici, oui, Getz est vraiment inspiré. Il est voluptueux à souhait. Il est capable de vous faire fondre en quelques notes. Et l'association avec Sauter, compositeur et arrangeur génial, et donne une partition qui est assez unique. Par contre, je ne sais pas du tout si cette partition a été gravée sur disque.
Si, tout à fait. Oui, d'ailleurs, les extraits que nous passons dans notre émission proviennent d'un CD qui a été publié d'abord sous la forme d'un vinyle et puis en 1965 et aujourd'hui sous forme d'un CD.
Donc on trouve de façon indépendante par rapport au film.
Et alors c'est très intéressant parce que ce que nous on n'avait pas sur le disque original, sur le vinyle original de 1965, c'est l'exploitation de la bande sonore du film elle-même en comparaison de l'enregistrement pour le disque. Et c'est très intéressant. Ce que l'on aura entendu là, c'est plutôt la version disque, mais on aurait pu écouter la version film, qui n'est pas tout à fait la même. Mais tout aussi inspiré que la version disque.
Oui, peut-être un petit peu amélioré, non, avec
pas amélioré, mais beaucoup plus en rapport, disons, avec l'image et avec le propos du film.
Ici, là, on note donc des improvisations, puisque tout n'était pas écrit. Les improvisations absolument pures de Getz, qui sont très inventives. Et alors, ceci se rajoute au grain un petit peu particulier, le grain du noir et blanc, de la photo de Ghislain Cloquet, donne un aspect d'étrangeté. Je crois qu'on peut dire deux mots du montage d'Ava Marakin.
Oui, avant de parler du montage d'Arakin, Ghislain Cloquet, qui est un directeur de la photographie relativement connu, il est d'origine belge, qui est connu, et Arthur Penn, qui voulait absolument faire une œuvre plutôt européenne, c'est ce qu'on lui reprochera d'ailleurs, je pense, très bien fait d'y associer Ghislain Cloquet. Le montage d'Arakin, il est plutôt vif, il est plutôt nerveux. Moi, je dirais aussi un petit mot de l'interprétation de Warren Beatty, qui est assez prodigieuse, voire éblouissante. Warren Beatty, qui n'est pas encore au sommet de sa gloire, mais en tout cas quelqu'un d'apprécié aux États-Unis, en tout cas dans le cinéma américain, bien que ses convictions politiques plutôt démocrate lui ferme quelques portes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Arthur Penn, de son côté, lui, est à son sommet. Et Mickey Wan est encore et toujours un film magistral et sidérant que moi, j'invite nos auditeurs à regarder. Ça en vaut vraiment la peine, ne serait-ce que pour la musique et pour la photographie.
Alors, nous allons écouter un thème qui est quand même assez connu de Stan Getz, Heimlet, Heimlet.
Oui, alors ça, c'est tiré de l'album Focus, l'album...
Voilà, 1961,
Focus. 1961, mmh. Avec Eddie Sauter, album mythique, Heimlet, Heimlet. Tu sais, Patrick, Heimlet, Heimlet, c'est ce que répète le lapin de Alice au Pays des Merveilles.
Ah, oui.
Je suis en retard, en retard. We'll be right back.
Retrouvez-nous, chers auditeurs, le mois prochain pour notre 9e émission, au cours de laquelle nous évoquerons le film Alfie avec Michael Caine, Shelley Winters. La musique est signée Sonny Rollins, mais c'est la chanson éponyme de Bacharach qui connaîtra le succès. Je vous remercie infiniment, Patrick Durand et Gilles Secaz, pour cette émission et je vous redis au mois prochain. À bientôt.
Merci Christiane Blain.
À bientôt, merci Christiane Blain.
Chers auditeurs, vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Thank you.